On sera ce soir dans Matthieu chapitre 7, les versets 1 à 12. Matthieu 7, les versets 1 à 12. On arrive presque à la fin du sermon sur la montagne. Et ici, c'est un peu la fin des exhortations sur divers aspects de la vie pour Israël qui attend la venue du royaume de Dieu et pour les disciples de Jésus avant la prochaine fois où nous avons ces exhortations de Jésus de discerner et de mettre en pratique donc les enseignements qui sont donnés et aussi de faire attention aux faux enseignants qui viennent. Mais ici, on va commencer simplement en lisant le passage, donc Matthieu 7, les versets 1 à 12. « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les demandent. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Nous avons ici une série de quatre enseignements de Jésus sur des thèmes différents, et en regardant, il ne semble pas qu'il y ait forcément un fil conducteur qui les relie tous, comme on a vu peut-être avant avec une série d'enseignements sur la prière, sur l'hypocrisie religieuse ou sur les trésors. Mais ici, il semble que nous avons des enseignements sur différents thèmes qui étaient dans le sermon sur la montagne, mais que Jésus prêchait à plusieurs moments différents, qu'on retrouve dans l'évangile de Luc aussi et dans différents endroits. Et donc, vu qu'il n'y a pas un seul thème, c'est parfois un peu difficile de retenir. Et donc, j'ai préparé juste un petit plan pour vous, avec quatre séries de deux P, d'accord? Donc une petite allitération de P qui peut nous aider à nous souvenir ce que Jésus enseigne, d'accord? Et les versets 1 à 5, donc toujours dans Matthieu, on est dans Matthieu 7 ici, d'accord? On a les poutres, d'accord? Et les pailles, d'accord? Et puis au verset 6, on a les perles et les porcs. D'accord, vous faites bien. Les versets 7 à 11, on a prié le Père. Vous voyez, c'est facile. Et puis, verset 12, alors là, j'ai dû chercher un peu, d'accord, mais on a des prévenances proactives. Voilà, donc il fallait chercher un peu sur la fin. Les prévenances, donc c'est quand on fait du bien aux autres, pour les autres et d'une manière proactive. Et donc, on va simplement regarder ces quatre enseignements différents de Jésus, essayer de comprendre là où Jésus veut en venir et comment on peut les appliquer à notre vie. Nous commençons, et peut-être celui qui est le plus long dans notre passage et qui a aussi fait couler beaucoup d'encre, surtout aujourd'hui, c'est cette question de Jésus au sujet du jugement. D'accord? Ça, c'est au verset 1 à 5 où il explique, donc il enseigne ne jugez pas et vous, pour ne pas être jugé d'eux-mêmes. Dans son cours sur l'évangile de Luc, qui parle de ce même enseignement de Jésus, Max Donner dit que c'est sans doute le passage, le verset le mieux connu par les non-croyants et le plus récité par les non-croyants, qui dit donc ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Et il faut savoir que dans une culture comme la nôtre, qui est une culture très individualiste et aussi très relativiste, c'est-à-dire que chacun fait sa propre vérité, sa propre moralité, ce passage peut être facilement utilisé, d'accord, pour justifier un mode de vie et un comportement que Jésus n'est pas vraiment en train de décrire ici. Je lisais un article, ça fait 3-4 ans maintenant, dans une revue américaine. C'était avant Noël, et puis avant Noël, aux États-Unis, les revues populaires ont toujours un gros article sur Jésus, parce qu'avant Noël, les gens vont lire cela. Et l'auteur critiquait certaines attitudes des chrétiens croyants et pratiquants, et il disait à la fin, ils ont oublié les deux commandements les plus importants de Jésus, qui sont « Aime ton prochain et tu ne jugeras pas ». Et c'est comme ça qu'il termine l'article, je n'invente rien ici. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que l'altruisme et le non-jugement et le pluralisme, c'est les plus grandes valeurs de notre culture aujourd'hui. Mais si, bien sûr, le non-jugement et l'altruisme font partie du message de Jésus, c'est pas ça qui est forcément au cœur, n'est-ce pas? Jésus dira le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Jésus ici n'est pas en train de dire qu'il ne faut jamais parler de bien ou de mal dans sa vie, dans la vie des autres ou dans la société, et de dire mêle-toi de tes affaires. D'accord? On l'applique parfois en disant Jésus enseigne mêle-toi de tes affaires et Dieu ne va pas te juger pour la manière que toi tu vis. Bon, c'est pas de cela que Jésus parle ici. Une des difficultés que nous avons, c'est que le verbe et le mot juger ou et jugement, c'est un des thèmes les plus importants du Nouveau Testament, et c'est un mot qui a beaucoup d'applications et de sens différents. J'ai fait le compte, c'est environ 190 fois que c'est utilisé dans le Nouveau Testament. Et le terme peut décrire le discernement entre le bien et le mal, donc une des capacités que Dieu nous a données, comme des êtres créés à son image. Le terme peut être utilisé pour condamner une personne. Le terme peut être utilisé pour parler du jugement devant un tribunal. D'accord? Donc, on commet un vol ou un meurtre, on se fait arrêter et puis on est jugé. Ou bien l'idée d'évaluer donc une personne pour ses qualités et pour les voir. Et la question c'est de quel jugement est-ce que Jésus parle ici? J'aimerais souligner que à partir du reste de l'enseignement de Jésus et le témoignage des Écritures, nous pouvons affirmer ici que Jésus ne parle pas de relativisme moral. J'ai déjà mentionné un peu, mais la pensée moderne qui est très ultra pluraliste et ne correspond pas à ce que Jésus croyait et vivait, ni à ce que ses auditeurs auraient connu. Ce que Jésus est en train de décrire ici, c'est plutôt une attitude négative de jugement et aussi de sentiment de supériorité de certaines personnes sur les autres. Quand on lit, pour revenir à cette idée que Jésus ne parle pas de relativisme, si on lit le reste du sermon sur la montagne, il enseigne aux disciples d'évaluer et de juger entre le bien et le mal au niveau du comportement, mais aussi même au niveau des enseignants. Si on regardera la semaine prochaine Matthieu 16, les versets 13 à 23, et on ne trouvera rien de relativiste dans ce passage. On verra plutôt une porte étroite qui mène à la vie, avec peu de gens qui entrent dans la vie et beaucoup de gens qui se perdent. D'accord? C'est pas du tout cette idée. Chacun sa route, chacun son chemin. Jésus qui parle ici d'un seul chemin. Jésus dit qu'il faut juger et discerner entre les faux prophètes et ceux qui enseignent, et on juge en regardant leurs actes, d'accord? En regardant leurs œuvres. Et puis Jésus parle même, et ça devrait nous choquer, du rejet par Dieu de ceux qui ne font pas la volonté du Père. Okay? Donc Dieu qui est quand même un juge. Et quand on regarde plus largement dans l'histoire de l'Église, nous ne voyons pas l'Église qui est confrontée au péché et qui dit, bon, qui suis-je pour juger? Je ne vais pas entrer en compte, faites votre vie comme vous voulez. Mais plutôt les personnes qui ont une responsabilité de diriger dans l'Assemblée, et même aussi les frères et sœurs entre eux, ont la responsabilité de s'édifier, de s'encourager, de se reprendre mutuellement dans l'amour pour progresser dans le chemin de Dieu. Donc, de quoi est-ce que Jésus parle ici, si ce n'est pas de dire ça me regarde pas ce que font les autres, qui suis-je pour juger? C'est pas une question de désaccord sur les valeurs, car Dieu nous a dit comment nous devons vivre, mais c'est plutôt un problème qui était très 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 présent chez les Juifs à l'époque de Jésus et qui peut nous affecter aussi. C'est une attitude qui a ces quatre points. D'accord, je veux juste souligner qu'est-ce que nous voyons dans l'enseignement de Jésus avec la parabole. C'est une attitude qui empêche aux gens de juger, justement. N'est-ce pas? C'est l'idée, on a une poutre dans les yeux qui nous empêche d'aider les autres. Parce qu'il dit au verset 5, Matthieu 7, verset 5, que si on enlève la poutre, on est capable d'enlever la paille ou d'enlever le défaut chez l'autre. Donc il y a quelque chose qui bloque. quelque chose qui empêche d'aider les autres. C'est quelque chose aussi où on se concentre sur ce qui est petit et on ignore sur ce qui est grand, ce qui est essentiel. C'est un problème, finalement, donc le jugement de ce qui est grand contre ce qui est petit et qui est aussi pratiqué par les hypocrites. Il dit « Hypocrite, ôte d'abord la poutre de tes yeux ». Et ces trois choses, quelque chose qui empêche de juger correctement, de viser ce qui est plus grand plutôt que ce qui est plus de ce qui est plus petit plutôt que ce qui est essentiel, et puis d'être hypocrite. Bon, quand on lit les évangiles, ça correspond à qui? Bon, à l'attitude des pharisiens, n'est-ce pas? Jésus parlera des pharisiens à plusieurs reprises dans l'évangile. Ce sont ceux qui, au chapitre 15, dans Matthieu chapitre 15, ils transgressent la loi en se servant de la tradition. Et puis, Jésus dit, ce sont des hypocrites. Au chapitre 23, les versets 13 à 29, Jésus va les appeler des hypocrites à plusieurs reprises, parce qu'ils sont en train d'enseigner une chose, de pratiquer l'autre, de se concentrer sur des choses secondaires et d'ignorer l'essentiel. Jésus dit que les hypocrites sont ceux qui seront définitivement condamnés et rejetés par Dieu dans Matthieu chapitre 24, le verset 51. Et sans cesse, on revient sur cette idée que les scribes et les pharisiens, qui représentaient l'élite religieuse de l'époque, sont des hypocrites. Ce sont des gens qui, à l'extérieur, ressemblent à des gens justes, mais à l'intérieur, sont pourris. Mais aussi l'autre idée, ce sont des gens qui ne savent pas juger correctement, qui ont une pensée déformée. Il y a ce mépris qu'on trouvait chez les dirigeants religieux à l'époque vis-à-vis du petit peuple, des gens moins religieux. Dans Jean chapitre 4, les versets 48 à 49, on le mentionne souvent, mais voici ce que dit donc le conseil juif. Y a-t-il quelqu'un, des chefs ou des pharisiens, qui ait cru en Jésus? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Ce sont des maudits. Ça, c'est Jean 7, les versets 48 et 49. Que faisaient ces pharisiens? Que faisaient ces chefs? Bon, nous savons qu'il y avait quelques-uns qui croyaient en fait en Jésus, même si c'était en secret. Mais ils regardaient les foules, qui avaient peu de connaissances de la loi, de la peine à mettre en pratique tous les ordres qu'on leur donnait. Ils disaient, c'est des maudits. D'accord? Vous voyez cet exemple de jugement. Et Jésus est très virulent quand il critique les scribes et les pharisiens. Ils sont en train de lier des fardeaux pesants sur les gens, de donner des ordres qu'eux-mêmes ne suivent pas. Et j'aimerais juste lire ce passage dans Matthieu 23, versets 23 à 26, on lit ceci. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Conducteur aveugle, qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. » Et il y a cette triple critique. Hein. Ils sont aveugles, ils sont hypocrites, et ils se concentrent sur des détails. Ils cherchent la petite bête, mais ils ignorent ce qui est énorme. Et c'est les mêmes images que nous trouvons en parlant de la paille et de la poutre. D'accord. Et il y a ce lien. Voilà donc le problème. Pour revenir à ce que Max dit dans son cours, il dit que Jésus vit le jugement dur et impitoyable que les pharisiens et les scribes se permettent d'exercer en Israël. Au lieu de montrer de la sollicitude envers les pécheurs, les chefs religieux se contentent de les condamner sans appel et de les accabler de mépris. Jésus dit en substance, « Malheur à vous qui avez la manie de condamner, car Dieu vous condamnera pareillement. » Et voilà le problème fondamental. Je crois que nous devons faire attention avec cet enseignement de Jésus. Parce que vu qu'il est tellement mal utilisé dans notre culture, on a peut-être la tentation de l'ignorer, n'est-ce pas? De dire, bon, ils ont tort, mais on oublie le message quand même fondamental de Jésus. Et qui vise les gens particulièrement religieux et particulièrement dévoués à Dieu. Et c'est le problème que, un, on peut rater l'essentiel pour les détails et en venir à condamner et à juger ceux qu'on est censé aider, mais aussi qu'on peut venir à se mettre à la place de Dieu comme celui qui est juge, comme celui qui évalue, essaye d'évaluer et de voir les motivations et les actions des autres, alors qu'il faut laisser cela à Dieu. Il ne faut pas avoir cette tendance de regarder ceux qui sont faibles dans la foi ou qui nous semblent plus faibles que nous, de ceux qui luttent avec le péché et d'avoir la manie de condamner plutôt qu'un désir d'aider qui doit toujours commencer avec une introspection en regardant notre propre vie et nos propres faiblesses. Paul applique cet enseignement de Jésus dans Romains 14, les versets 3 et 4, en parlant de conflits qui pouvaient exister dans l'Église au sujet de ce qu'on avait le droit de manger ou pas. Et il dit que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et là, il y avait des chrétiens, bon, le problème était dans les deux sens, d'accord? Mais ils se croyaient mieux que les autres, ils se dressaient en juge et en celui qui pouvait évaluer les autres. Et Paul dit, arrêtez de faire cela. Cherchez Dieu. En tant qu'être humain qui lutte avec le péché, nous avons une tendance d'imputer des intentions louables à nous-mêmes, même lorsque nous échouons, et des mauvaises intentions aux autres lorsqu'ils échouent. Et le problème, on devrait faire l'inverse, n'est-ce pas? On devrait donner le bénéfice du doute, imputer des intentions louables aux autres, lorsque nous les voyons échouer ou faire quelque chose où nous ne sommes pas, on ne comprend pas, on n'est pas d'accord. Et puis, s'évaluer nous-mêmes beaucoup plus durement. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Ça, c'est donc un des problèmes et une des manières que nous pouvons agir. C'est vraiment systématiquement, lorsque nous voyons des gens qui pêchent, nous voyons des problèmes, surtout dans l'Église ou entre frères et sœurs, cherchons à imputer des intentions louables. Cherchons à nous évaluer nous-mêmes avant de commencer à montrer aux autres comment bien vivre et ensuite avec amour d'aider les autres et de les redresser. Sinon, cela témoigne d'un manque de compréhension et de la volonté de Dieu. Un manque de compréhension de la volonté de Dieu. Christ est venu non pas pour condamner, mais pour sauver. Il le fait en mourant à notre place, en nous appelant à une vie de sainteté, mais le but de Christ, c'est de sauver et non de condamner. Et notre but vis-à-vis de nos frères et sœurs devrait être la même chose. Non pas de condamner, mais d'amener les gens au salut. Et cela commence par soi-même. Donc, les poutres et les pailles. On passe un peu plus rapidement au suivant. Bon, les perles et les porcs. Vous avez lu ce passage. Vu que c'est un verset, je vais le relire rapidement, verset 6. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retourne pour vous déchirer. Bon, de quoi est-ce que Jésus parle ici? Voilà notre question. Je vais vous dire franchement, je ne suis pas sûr. J'accueille volontiers les suggestions, si vous en avez à la fin du culte. Il y a deux manières principales pour voir ce passage. La première, c'est que c'est une métaphore ou une allégorie. Et l'idée, c'est qu'ici, nous avons un tableau complet où Jésus enseigne sur un sujet particulier, qui n'est pas lié à ce qui vient après ou ce qui vient avant. La métaphore, donc, c'est qu'on a quelque chose de précieux et un usage mauvais qu'on va faire avec des gens. Et d'habitude, dans cette manière de voir, donc les porcs et puis les chiens sont des personnes. Alors, les différentes explications qu'on a données, c'est le repas du Seigneur, la Sainte Cène. Il ne faut pas donner la Sainte Cène aux non-baptisés. Ça, c'est une des plus anciennes interprétations qu'on a trouvées pour l'instant. Qu'il ne faut pas insister à évangéliser ceux qui rejettent Christ avec insistance et dureté de cœur. Il faut à un moment donné dire « ça va, j'arrête ». Certains ont dit aussi que c'est Jésus qui donne un enseignement à très court terme pour ses disciples, en utilisant un langage commun de l'époque, en disant « il ne faut pas aller parler du royaume de Dieu aux non-croyants, parce qu'il n'est pas encore mort et ressuscité, et ça c'est pour après. » Et donc, c'est le message du royaume, mais qui n'est pas pour les pourceaux et pour les chiens, mais pour seulement les Israélites, pour les non-juifs. Ouais. Ça, c'est une des explications. Alors, j'ai un peu de peine avec ces différentes explications qui sont données. Surtout, je vois pas où ils se retournent et vous déchirent, comment ça s'applique surtout au dernier pour les non-juifs. Jésus qui est très admiratif des non-juifs qui écoutent avec foi le message qui est donné. Mais bon, juste que vous sachiez, c'est ce qu'on dit. L'autre possibilité, donc, c'est que Jésus ici est en train de faire une parabole, non pas où chaque élément correspond à quelque chose, mais plutôt en train d'illustrer un principe qui s'applique à son enseignement qui vient avant, où il donne deux exemples frappants de l'usage inapproprié de choses importantes, de choses précieuses. Les perles, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ce qui est saint, sans doute, c'est le langage de ce qui était pour le temple et pour les sacrifices. Et ces choses importantes, on ne va pas les gaspiller sur les chiens qui n'étaient pas des animaux de compagnie, mais c'était des animaux sauvages qui mangeaient les ordures, ou les pourceaux, les porcs, qui étaient donc les animaux impurs. On n'avait pas le droit de les manger en Israël. On ne prend pas ce qui est précieux pour le gaspiller sur ce qui est inutile. Et si on le fait, on sera détruit nous-mêmes. Et donc, si c'est juste ce principe général de ne pas prendre ce qui est précieux pour le gaspiller, peut-être qu'il parle du jugement qui vient juste avant. Le discernement moral, le jugement, si on fait un usage mauvais, en étant inique soi-même, en étant corrompu par le péché sans y faire face, et on essaye de juger les autres, cela mène à notre destruction, à notre jugement. Ou si on regarde un peu plus tôt dans le message, il y avait tout cet enseignement sur les trésors et les recherches dans notre vie. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est la recherche du royaume de Dieu. Si nous utilisons notre temps, notre volonté, nos ressources à la recherche de choses inutiles, comme l'argent, comme la sécurité, Mammon, le dieu de l'argent, de nouveau, cela mènera à notre destruction. Bon, je crois que les principes sont bons, n'est-ce pas? La difficulté, c'est de savoir exactement ce que Jésus veut dire ici. Moi, je penche plus vers cette idée de continuité, de ne pas gaspiller, de ne pas faire un mauvais usage de ce qui est précieux, que ce soit donc le jugement ou que ce soit donc nos biens, les bénédictions de Dieu. Mais ça, ce sera peut-être une chose à demander à Jésus, à la résurrection, ce qu'il voulait dire exactement. Ça va? Okay, on continue. Bon, versets 7 à 11, à prier le Père. De nouveau, on change un peu de registre ici, ce n'est plus le même sujet qu'avant. Mais il y a cet encouragement donc de demander et vous recevrez. Et de nouveau, un verset très connu, c'est le verset 7. « Demanderez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et pourquoi Jésus enseigne ceci? Il faut savoir, Jésus ne parle pas à un peuple, une culture qui priait peu. D'accord. Les Israélites, et surtout les Israélites du 1er siècle, c'était des gens de prière, qui priaient constamment Dieu. Et pourtant, c'était des gens qui vivaient dans énormément de souffrances, dans l'oppression d'un peuple ennemi, les Romains, qui voyaient énormément de pauvreté, énormément d'injustice et énormément de désespoir à chaque jour. Et donc, il y a cette attente qui existait dans le peuple de Dieu, que le royaume allait venir. Mais en attendant, on regarde autour de soi, on dit, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et Jésus s'adresse à des gens qui prient beaucoup, mais sans doute ne voient pas beaucoup de réponses à leurs prières. Ou pas encore. Ils espèrent bien sûr voir le royaume de Dieu. Et Jésus ici, il n'est pas vraiment en train de parler d'une technique de prière ou d'une méthode de prière pour avoir ce qu'on veut. Mais il parle du caractère de Dieu lui-même. Il est en train de dire que Dieu est bon, que Dieu est Père, et il sait prendre soin de ses enfants. Ça, c'est le message qui doit encourager ceux qui prient. Il dit aussi que Dieu est capable de répondre, de donner et d'ouvrir la porte à ceux qui sont en train de lui faire les demandes, de lui faire des requêtes. Mais c'est vraiment le caractère de Dieu ici qui est important. Parce que il y a, pour ceux qui prient avec insistance, toujours cette crainte et cette peur lorsqu'il n'y a pas de réponse, que peut-être Dieu ne m'écoute pas. Ou peut-être Dieu ne se soucie pas de moi. Ou peut-être que Dieu n'est pas capable d'agir. Et ici, Jésus dit non, ce n'est pas vrai. Dieu sait agir et il peut agir. Dieu écoute et Dieu vous aime. Et l'illustration est forte, n'est-ce pas? Il dit, vous n'êtes pas des très bonnes personnes. Vous êtes mauvais, mais vous savez prendre soin de vos enfants. Et vous savez que Dieu est bon, et vous savez que vous êtes ses enfants. Si vous ne doutez pas de votre propre capacité à prendre soin et faire le bien de vos enfants, comment est-ce qu'on pourrait douter de Dieu? Et voilà la réponse de Jésus ici, à ce problème de la prière. Il dit pas, bon, parfois Dieu dit oui, parfois il dit non, parfois il dit attends, ce qui est vrai. Il dit pas, vous êtes en train de demander les mauvaises choses, ce qui est parfois vrai aussi. Ici, il revient vraiment aux idées fondamentales de la prière. C'est que Dieu est notre Père et Dieu veut notre bien. Et nous prions à Dieu avec cette conviction. Je ne crois pas que Jésus est en train de dire ici, vous avez carte blanche pour la prière, tout ce que vous demandez, vous allez le recevoir. Vous voulez une Mercedes, vous l'aurez, une villa avec piscine. Dieu dit, frappez, et on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Le seul problème, c'est qu'on ne prie pas correctement. Dieu sait ce qui est bon. Dieu sait nous donner ce dont nous avons besoin. Et de nouveau, quand on relit tout le sermon sur la montagne, Jésus a déjà parlé de ce que nous devrions désirer de la part de Dieu. Ce que nous sommes censés rechercher premièrement. Pas des trésors sur la terre, mais des trésors dans les cieux. Pas le manger et le vêtement, mais le royaume de Dieu. Il ne faut pas prier pour notre volonté, mais celle de Dieu. Ça c'est ce que Dieu désire pour nous. Et Dieu prend soin de nous dans nos besoins quotidiens, mais il promet aussi de répondre à ses besoins spirituels, à ses besoins de ceux qui attendent et qui désirent le royaume de Dieu dans le monde et dans leur vie. Jacques applique ces paroles de Jésus dans Jacques chapitre 1, les versets 5 et 6, ainsi. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Demandez et il vous sera donné. « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Si on prie pour la sagesse, avec un cœur plein de foi et de sincérité, bon, vous recevrez. Et cette promesse n'est pas limitée, bien sûr, à la sagesse. À la question « Dieu m'écoute-t-il ?», la réponse, c'est oui, parce qu'il est notre Père. Et nous savons qu'il y a des mauvais pères dans le monde, mais la plupart des pères sont des bons pères, dans le sens au minimum, qui cherchent le bien de leurs enfants, qui leur donnent des bonnes choses quand ils les demandent. Ils ne vont pas donner un serpent à leur enfant qui demande un poisson. Si Dieu n'est pas comme les pères de ce monde. Si un père humain est capable de faire le bien, combien plus Dieu? Lorsque nous sommes confrontés à des situations où nous prions avec insistance et persévérance et nous ne voyons pas la réponse de Dieu, nous ne savons pas forcément pourquoi Dieu ne répond pas. Mais nous savons que Dieu est bon, toujours et tout le temps, et qu'il nous écoute. Et cela doit nous aider à persévérer dans la prière. Et bon, on arrive à la dernière, les prévenances proactives. À ce verset 12, où Jésus dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. » Ce passage est de nouveau très connu. Je lisais à Scott McKnight, qui est un théologien américain, il dit « On peut expliquer et appliquer la loi de Dieu de deux manières. En l'amplifiant, en trouvant une réponse à chaque situation de vie, ou en le simplifiant, en trouvant le ou les commandements sur lesquels tous les autres reposent. » On utilisait les deux approches au temps de Jésus, mais Jésus se sert de la seconde méthode. Il pose le fondement. Comment est-ce qu'on veut amplifier la loi? Est-ce que je dis, bon, chaque situation de la vie, quelle est la loi de Dieu? Ou est-ce qu'on dit, quelle est la loi de Dieu? Quel est ce commandement qui recouvre tous les aspects de la vie? C'est ce que fait Jésus. Et il dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour les autres. Et cela, ça applique la loi. Tout d'un coup, la loi de Dieu, la volonté de Dieu affecte chaque instant de notre vie, n'est-ce pas? Chaque échange que nous avons. Ceci ressemble et rejoint l'enseignement de Jésus qui dit « Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. » De chercher toujours le bien des autres en premier. Paul dans Philippiens 2, verset 4 dit « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et voilà ce à quoi doit ressembler la vie du disciple de Christ. Quelqu'un qui fait pour les autres ce qu'il voudrait dans son cœur qu'on fasse pour lui. Voilà la motivation. Vous savez, on parle des trois règles, et voici les noms que moi je les donne. Je sais que certains ont peut-être des versions un peu différentes, mais il y a la règle de faire, que peut-être on n'aime pas beaucoup, qui dit « faites aux autres ce qu'ils vous font ». Vous la connaissez, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'appelle donc la règle de vie réactive. On me fait quelque chose, je rends. Okay. Œil pour œil, dent pour dent. Il y a ensuite la règle d'argent qui dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. » Et c'est une bonne chose, on enseigne ça aux enfants à la colo. Pourquoi tu l'as frappé? Est-ce que tu aimerais qu'on te frappe? C'est la règle d'argent. D'accord. Et c'est ce que j'appelle une attitude de vie préventive. D'accord. On ne va pas faire les choses qui sont mauvaises parce qu'on ne voudrait pas qu'on nous les fasse. Mais Jésus va plus loin. Il fait la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour les autres. Et là, il est actif ou proactif dans l'enseignement. Et c'est surprenant. Jésus dit pas, c'est juste, ça c'est moi, ça c'est mon enseignement. Il dit, ça c'est tout l'Ancien Testament. Hein, si on lit l'Ancien Testament, notre conclusion pour comment vivre, c'est de faire toujours le bien aux autres qu'on aimerait qu'on nous fasse. Et pour l'application, c'est génial, n'est-ce pas? Parce que il y a vraiment, voilà quelque chose où il n'y a rien de théorique du tout. C'est vraiment ce qu'on doit vivre à la maison, dans la famille, au travail, avec nos collègues, dans l'assemblée, lorsqu'on est ensemble en tant qu'église, lorsqu'on est dehors en ville, systématiquement dans chaque échange, dans chaque moment de notre vie, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends des autres? Est-ce que je suis en train de le faire pour eux? En tant que jeune papa, vous savez, quand je sens qu'un des enfants a sali ses couches, la première chose auquel je pense, et c'est pas bien, mais c'est comment est-ce que je peux faire pour que Martina change les couches plutôt que moi. Ça, c'est ce que je veux que les autres fassent pour moi. C'est de s'occuper du caca et de ce qui est moche et tout ça pour les autres. Qu'est-ce que Jésus veut que je fasse? Hein, c'est très basique, hein, c'est très simple. C'est de le faire plutôt pour aider. Et c'est tellement simple à dire, c'est tellement simple à comprendre. Et c'est un peu l'opposé des perles et des porcs. Ça, c'est dur à comprendre et probablement pas trop dur à mettre en pratique. Ici, c'est très facile à comprendre, mais nous devons lutter à le mettre en pratique. Mais quel défi, n'est-ce pas? De commencer chaque journée de travail en disant, est-ce que je vais faire pour les autres ce que je veux qu'ils fassent pour moi? Et ainsi montrer l'amour de Christ aux autres. Est-ce que je vais traiter les autres comme je souhaiterais être traité? Voilà ce que Jésus désire de nous. Bon, vous avez été patient, mais on a ces quatre choses, hein, les poutres et les pailles. Ne soyons pas prompts à juger les autres et à se voir comme meilleurs. Mais commençons avec nos fautes et nos péchés avant de commencer à juger les autres. Attention à ne pas gaspiller ce qui est précieux dans notre vie. Priez le Père. Nous prions celui qui est bon, qui est notre Père et qui cherche notre bien, même dans les moments de lutte, de doute et d'insécurité dans nos prières. Et les prévenances proactives, cherchant à faire le bien avant qu'on le fasse pour nous, parce que c'est ainsi que Dieu nous a appelés à nous aimer les uns les autres.